Pascal Crammaire, vous avez publié une dizaine de romans, que je ne vais pas tous citer, mais quand même quelques titres. Les Vivants, en 2000, qui était paru chez Kahneman Lévy et qui avait reçu le prix LIP. L'implacable brutalité du réveil, au Mercure de France en 2005, qui avait notamment reçu le grand prix du roman de la Société des gens de lettres. Gloria, en 2013, ainsi que Autopsie d'un père, en 2016, sont tous les deux parus aux éditions Flammarion. Vous avez reçu tout récemment le Grand Prix Suisse de littérature 2017. Et puis, votre dernier livre, celui dont nous allons parler aujourd'hui, s'intitule « Chronique d'un lieu en partage » et il est paru aux éditions de l'Atelier. Nicolas Bokov, vous êtes né à Moscou. Vous êtes exilé en France depuis 1975 en raison de vos activités clandestines, dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Vous êtes notamment l'auteur de Nikto, qui avait été publié par Maurice Nadeau en 1971, Dans la rue à Paris, paru chez Noir sur Blanc en 1999, ou bien encore chez le même éditeur Déjeuner au bord de la Baltique. Et nous allons parler aujourd'hui de La tête de Lénine, qui avait été initialement publiée en 1972 et qui a été rééditée par les éditions Noir sur Blanc. Voilà, alors donc c'est la question des marginalités, des fragilités sociales et puis aussi la question des exclusions qui nous rassemble aujourd'hui. Avec des formes littéraires extrêmement différentes. Si Jean-Luc Seigle avait été là, on aurait eu un document, un roman, et puis un texte qui est un peu une forme de pamphlet. Donc des traitements littéraires différents, et je pense qu'on en parlera. Mais c'est aussi le rêve qui vous réunit, d'où c'est intitulé, hein, « Marginaux, laissés pour compte », des rêves en partage. Alors Pascal Crammaire, on va commencer en présentant votre livre, qui est un document vraiment basé sur des témoignages de différentes personnes qui ont vécu une formidable aventure dans un lieu qui est un ancien Carmel, l'ancien Carmel de Condom, plusieurs fois centenaire, et qui est devenu un abri pour des résidents alors, d'origine assez diverses, des retraités, des gens de la rue, des pèlerins en chemin pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Et votre livre s'ouvre sur le portrait de celui qui a voulu tout ça, qui est à l'initiative de ce projet, qui s'appelle Olivier Lafond, qui est vraiment un homme absolument extraordinaire. C'est un homme extrêmement fortuné et qui a mis sa fortune au service de ce projet.
Alors, il a mis sa fortune au service de plusieurs projets, d'ailleurs. C'est quelqu'un, effectivement, qui est... en plus, quand on le voit, on tombe instantanément amoureuse, même s'il est très mal en point, parce que c'est un homme qui a la maladie de Parkinson. Donc, il a fait fortune en construisant des centres commerciaux. Et puis, quand il a été malade, il a découvert qu'il avait la maladie de Parkinson à 38 ans. Il s'est fait opérer. Ils ont mis des implants... ce qui a un petit peu arrangé les choses, et il s'est dit, si j'en ressors vivant, je vais destiner ma fortune à autre chose. Alors il a fait plein de choses. Il avait d'abord donné l'usufruit de sa fortune à des associations qui distribuaient des fonds pour des... Puis finalement, il s'est rendu compte que les associations, leur grand problème, c'était de se loger. Donc il a créé des maisons des associations à Paris. Donc lui, en fait, il a la surface financière pour acheter des lieux, et puis ensuite, il les met à la disposition. Puis il a un jour découvert cet ancien Carmel. Et il a eu le coup de foudre. D'ailleurs, les gens qui lui ont fait visiter ont tout de suite compris qu'il allait tout de suite acheter. Ce Carmel avait fait rêver beaucoup de gens. C'est un lieu assez incroyable, très très vaste. Il y a eu plein de projets. Donc les carmélites, elles étaient plus qu'une poignée, elles étaient toutes centenaires, et donc elles pouvaient plus entretenir ce lieu. Donc elles l'ont mis en vente. Et donc il y a eu des projets d'écoles européennes, d'hôtels de luxe, enfin bon, tout ça. Et puis Olivier Lafond est arrivé. Il a dit j'achète. Il est rentré au bureau, il en a parlé, comme dit celui qui a été le premier directeur du Carmel. Voilà Olivier Lafond qui arrive avec son énième lui. Alors c'était pas un bateau ni un bâtiment dans Paris, c'était un Carmel. Et puis donc ils ont monté ce truc très rapidement, avec tout de suite l'idée d'en faire un lieu à la d'hébergement social qui se finance par l'accueil du pèlerin.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ça se déroule dans un lieu qui est d'ailleurs une présence très forte dans les récits des gens, qui a eu une vocation religieuse. Et là, il y a une nouvelle communauté qui se reforme, qui est une communauté laïque, cette fois-ci, mais qui est quand même une communauté qui est fondée et reliée sur des notions de partage. Enfin, les valeurs que tout le monde a en commun dans ce lieu-là, ce sont des valeurs très, très éloignées, bien sûr, du bénéfice et de l'argent et de la consommation.
Oui, alors c'est sûr que l'idée, c'est que juste ça tourne, mais il n'y a pas évidemment d'idée de profit. Après, c'est vrai qu'il y a à la fois, donc ce qu'il y a de très particulier dans ce lieu, c'est qu'il y a à la fois des retraités, des gens qui sont encore en plus ou moins bonne forme physique, ou parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas en super bonne forme physique, mais qui ont eu des belles vies, disons, des gens qui sont bien dans leur peau et qui n'ont pas envie de se retrouver dans un EMS à faire du macramé. Donc, ils ont envie de pas de vivre seuls. Donc, ces gens font le choix de venir là-bas, et là il y a une vraie décision. Alors après, on voit qu'entre ce qui est la décision intellectuelle de se dire je vais aller dans un lieu en partage, c'est une chose. Après, il faut vivre la communauté de vie avec des gens qui eux sont là aussi parce que pour souvent ils savent pas trop où aller. C'est des gens qui ont été à la rue, c'est des gens qui ont été en hôpital psychiatrique, en prison pendant très longtemps, et donc des gens très très cassés, avec des gens avec des... Il y avait notamment un certain Eric qui, hélas, n'y est plus, avec un problème d'addiction, mais gravissime. C'est quelqu'un, moi c'est la première fois que j'ai vu ça, de quelqu'un qui nous servait à table, il dormait debout, il nous servait en ronflant tellement il était assommé de médicaments, d'alcool, etc. Donc voilà, tous ces gens-là, ben, c'est un peu la dernière chance. Certains s'y plaisent vraiment et adhèrent à la communauté, d'autres moins. Mais disons que ça fait tout un petit monde, c'est haut en couleur, disons.
Mais ce qui est assez beau, en fait, dans le récit qui en ressort, c'est qu'il y a eu un élan formidable et que tout le monde s'est lancé dans cette aventure sans forcément, d'ailleurs, bien anticiper les éventuelles difficultés. C'était une sorte de générosité comme ça, spontanée. Mais quand même, il y a eu très vite des difficultés, et notamment liées à ce que vous venez d'évoquer, la grande détresse de certains occupants. Et donc, ce projet, il a fallu, au fil du temps, le repenser, l'aménager. Et bon, comme c'est une communauté humaine, ben, forcément, c'était difficile.
Ah oui, ça a été vraiment... C'est vrai que ça a démarré... Bon, je raconte juste les tout débuts, parce que c'est assez drôle. Donc, un des employés d'Olivier Lafond décide de venir avec sa famille. Donc, il débarque. C'est un type beau mec, jeune, dynamique, etc. Il embarque avec lui David Lafraise, le nom est authentique, qui est un ancien braqueur. Il braquait 3 banques par jour pendant je ne sais pas combien de temps. Et donc, il s'est retrouvé... Il a fait 15 ans de prison. Et en sortant de prison, drogue, rue, etc., il est incroyable, c'est plus qu'un personnage de film. Et donc ils sont descendus avec David Lafraise, qu'ils ont mis tout de suite à l'accueil du pèlerin, ça il fallait quand même oser. Et puis le deuxième premier résident, c'était Marie-Paulette, qui est une charmante petite retraitée de Condon, qui faisait du commerce de produits surgelés, et qui est toute mise en plis, petit foulard, etc. Et donc voilà, Marie-Paulette, elle trépignait de venir s'installer là, elle dit j'y mourrai. Et David Lafraise et Marie-Paulette, ça a fait la super bonne affaire. Et puis il y avait aussi dans cette première équipée, alors quelqu'un qui était de la mairie de Condon, une élue RPR, bon ton, fausse blonde, très, et qui se retrouvait à aller chez Emmaüs acheter des matelas avec David Lafraise. Enfin bon, alors ce départ, il est vraiment très sympa. Puis en plus, surtout, c'était tout de suite... viens qui veut, t'es jeune, on t'héberge, on te nourrit et puis tu bosses. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Donc il y a plein de gens un peu en marge comme ça qui ont atterri là. Il y a quelqu'un qui est venu avec un âne. Enfin bon, il y a eu plein de trucs. Et puis alors après, il y a les normes qui... Alors il y a un jour, il y a l'inspection du travail qui arrive et puis qui dit mais c'est quoi ça, je te loge, je te nourris, et donc ça va pas. Donc il y a eu comme ça, ils se sont heurtés alors à des problèmes de normes justement. Avec ces problèmes quand même d'alcoolisme qui étaient très très prégnants, et donc la nécessité d'avoir un éducateur, et donc il fallait trouver de l'argent. Donc ils ont dédié une partie du bâtiment à ce qu'on appelle un maison relais, donc là c'est une structure d'État, donc ils ont eu de l'argent de l'État, mais ça a compliqué parce que du coup ça a ghettoisé ceux qui étaient marginaux par rapport aux autres, et ça les a mis dans un système différent, donc ça a été assez compliqué. Et puis après, il y a surtout, et ça, moi, j'ai vécu dans un foyer pendant un an et demi, donc je vois bien de quoi il s'agit, l'usure. C'est-à-dire que déjà, en couple, c'est pas toujours évident de survivre à l'usure quotidienne, avec des gens comme ça, qui sont... Il y a quand même bon, David Lafraise et un autre, qui est une des figures de la rue parisienne, Richard, qui est un géant, qui doit faire 140 kilos, qui est très attachant, mais qui un gueulard. Donc au petit déjeuner, ça commence les engueulades, on balance. Bon, donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance. Et puis, quand pour des retraités qui sont là tout le temps, qui ont tout le temps affaire aux mêmes histoires, parfois c'est difficile. Et ça, c'est aussi un truc qui est Je pense qu'il faudrait plus de 109, enfin de gens qui passent pour des périodes courtes, qui arrivent avec, et puis qui tiennent le temps que tient l'enthousiasme total du début.
Avant de présenter le livre de Nicolas Bokhoff, et puis enfin, on reviendra bien sûr au vôtre ensuite, juste la question par laquelle j'aurais pu commencer, qui est comment est-ce que vous avez d'abord découvert ce lieu et surtout eu l'idée, l'envie d'en produire un livre, en fait, hein, de faire ce document de témoignage.
Alors, le lieu, donc, comme j'ai dit, j'avais vécu un an et demi à Paris dans un foyer aussi, avec une colocation des gens qui travaillent et d'autres qui viennent de la rue. Et puis, c'est là que j'ai entendu parler de ce lieu. Et comme je savais qu'ils faisaient de l'accueil touristique, je me suis dit, je vais y aller pour écrire mon bouquin, parce que j'aime bien me trouver des endroits. Donc, j'y suis allée pour écrire mon dernier roman. Et puis, là, ils ont su que j'étais écrivain. Et donc, la directrice de l'époque m'avait dit, mais nous, on aimerait bien faire un livre, est-ce que ça t'intéresserait, etc. Donc, je suis rentrée dans l'idée, et c'est vrai que j'aimais cette idée de faire témoigner tout le monde, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens parmi eux qu'on n'entend pas. Et donc, j'ai fait les interviews des gens qui y habitent, des gens qui y ont habité, des gens qui l'ont créé, qui l'ont dirigé. Et je me suis retrouvée avec plus de 400 pages de témoignages, et je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et donc, j'ai essayé de le monter un peu comme un film documentaire, en fait, avec des extraits, puis une sorte de voix off qui est la mienne, mais je me suis fait vraiment discrète parce que j'avais vraiment envie de les entendre parler. Et puis ce qui était bien, c'est qu'en fait, tout le monde a dit des choses intéressantes. Et il n'y a pas d'hierarchie. Bon, là, on commence par Olivier Lafont parce que l'histoire commence par lui. Mais disons qu'après, le Richard qui a fait 20 ans de rue et qui a jamais allé à l'école quasiment, il dit des choses aussi intéressantes que Olivier Lafont qui a fait Sciences Po. Et donc, les témoignages se complètent et chacun a son point de vue, sa vision des choses. Et j'étais vraiment... Ça a été très difficile à monter pour que ça donne quelque chose. Mais ça, et puis c'est aussi ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est que dès que j'ai commencé à interviewer les gens, je me suis rendu compte que ça, parce que cette idée de mélanger les genres, de mélanger les gens, d'éviter les ghettos, mais de mélanger les gens, moi ça c'est vraiment quelque chose auquel je crois totalement, pour lequel je milite presque. Et donc ça c'est intéressant parce que c'est un projet complètement novateur et ça documente vraiment complètement toutes les difficultés, rien n'est caché des difficultés justement dedans. On rentre très dans, c'est presque un audit du lieu, et pour des gens qui s'intéressent à ce genre de choses ou qui ont des envies de monter des projets comme ça, je pense que vraiment ça, c'est intéressant, quoi. Il y a un peu toutes les, voilà, les écueils, les difficultés. Par exemple, une chose toute bête, mais une des difficultés, c'est l'intégration dans Condom. Il faut savoir que ce lieu, il y avait des bonnes sœurs qui priaient pour le village tout le temps, et tout à coup ils ont des poivrots qui viennent se saouler la gueule sur la place du village, et Condom c'est une ville de personnes âgées, et donc ça a été, et puis ce projet a été décidé à Paris, financé à Paris, intégré là. Olivier Lafont n'habite pas sur place, et donc ça a été assez mal vécu, enfin ça a mal tourné avec la ville, et là il faut vraiment essayer de réintégrer et de refamiliariser les gens, puis surtout d'éviter les peurs, parce que c'est vrai que c'est des gens qui peuvent faire peur, en fait, il n'y a pas de souci, il faut juste les connaître, en fait.
Bien, alors on va y revenir, bien sûr, mais on va présenter votre livre.
Est-ce qu'il y en a combien de personnes, hein, de...
Alors, ça varie un petit peu. Les gens qui viennent, donc, qui sont au RSA, qui sont en difficulté, ils sont une vingtaine à peu près. Les retraités, c'est une dizaine de... Enfin, il y a une communauté fixe à peu près d'une trentaine de personnes. Et après, l'accueil pèlerin, ça peut aller jusqu'à 50 personnes. C'est le lieu est immense. Donc l'été, il peut y avoir près de 100 personnes. Et puis l'hiver, moi, je viens plutôt en hiver parce que je trouve que c'est plus sympa. Mais là, la communauté est avec elle-même, avec tous les problèmes, et plus le froid, la pluie. Et oui, là, ça va être plus difficile.
Donc il y a un noyau de personnes.
On va y revenir. D'accord. On va en parler. On va présenter votre livre d'abord, si vous voulez bien. Vous voulez bien, on va présenter votre livre. On va revenir au livre de Pascal après. Ça sera plus intéressant pour la conversation que les deux livres soient présentés. On va dire que peut-être Nicolas Bokhoff, le premier caractère de la tête de Lénine, c'est sa clandestinité, puisqu'il est paru de façon clandestine à Moscou avant d'être publié à Paris, d'ailleurs anonymement, hein, en 1972. À l'époque, vous êtes encore en URSS.
Vous voyez quelle distance avec le livre de Pascal. Hein.
Oh, mais vous inquiétez pas, on va faire le lien. Vous inquiétez pas, on va le faire le lien.
C'est difficile de sauter tout de suite. d'une réalité française, n'est-ce oui. pas, oui. contemporaine, oui. vers les réalités soviétiques des années 70. Mm. Mais Catherine, vous pouvez faire tout. Hein,
ça, je ne sais pas si je peux faire tout, mais enfin, on va essayer de faire un lien entre vous. Non, mais on peut peut-être commencer quand même par relater l'accueil qui a été celui de ce livre, donc La tête de Lénine, lorsqu'il est paru en France. Parce que c'est vraiment un livre qui a une vraie histoire.
Oui, il est paru, vous savez, en semi-clandestinité aussi, puisqu'il a été publié pour la première fois par Maurice Nadeau. Et c'était publié comme un complément pour son édition Les Canzins littéraires, sans le nom d'auteur, bien sûr, et puis sans trop de publicité générale, puisque quand même à l'époque 72, la France était très prudente par rapport au régime soviétique. Donc on n'y faisait pas, on n'y disait pas des choses désagréables. Alors on restait plutôt calme. Et si on parlait de choses vraies, de choses crues, c'était presque dans le privé, comme un compliment pour un bonheur à la quinzaine littéraire. Mais c'était quand même très brave. Hein.
Alors c'est un pamphlet. Et c'est une critique absolument impitoyable de l'idéologie.
C'est une farce. C'est une farce.
C'est une farce. Voilà, c'est bien, c'est ça, c'est la
une
définition.
Une farce politique.
C'est une farce politique et une satire donc de l'idéologie soviétique et surtout de l'idolâtrie absolument incroyable qui règne à l'époque en URSS. Et là où on rejoint ce sujet de la marginalité, c'est que cette satire, vous la conduisez par le truchement d'un personnage qui est un pickpocket et qui donc vit dans la marge, vit dans la transgression.
Oui, mais finalement, comment dirais-je, un geste littéraire. Donc, c'est une chose tout à fait fantastique, pas du tout réalisable. Donc finalement, c'est une farce politique qui reste. C'était justement pour viser cette chose sérieuse qui était le pouvoir soviétique. C'était très sérieux. Il n'y avait pas un sourire même. S'il y avait un sourire, c'était tout à fait contrôlé bien avant. Et d'un coup, c'est une rigolade totale. Et comme ça, ça s'est devenu une sorte de point d'attaque sur cette idole qui est sérieuse, qui est toujours positif, 100%, d'un coup, ça devient... peut-être on ne s'imagine même pas le rôle de Lénine à l'époque. C'était quelque chose d'intouchable, dès ses 5 ans, puisque dès ses 5 ans, il était très bien comme garçon dans sa famille, il faisait bien ses études. Finalement, il est devenu étudiant et avocat, et puis il a créé le meilleur État au monde, qui était l'Union soviétique. Et d'un coup, on se moque de ces personnages. Justement, un voleur pénètre dans le mausolée et vole la tête de Lénine pour la vendre aux millionnaires américains. Et on comprend pourquoi, puisque les Américains ont des sous. Hein. Bon, peut-être les Suisses aussi ont des sous, mais les Américains ont des dollars. C'est encore mieux. Finalement, c'était son projet de vendre la tête de Lénine, et c'était déjà une chose iconoclaste, n'est-ce pas, vendre. D'ailleurs, je l'ai proposé tout récemment sur le Facebook. Vous savez, il y a un Facebook qui existe. Il y avait une question du mausolée de Lénine qui reste toujours une question brûlante. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le cadavre? Et le cadavre reste dans le mausolée. Et pour cette année-là, qui est 2017, c'est-à-dire centenaire du coup d'État bolchevique en 1917, alors on a même un budget pour réparer Lénine. On a 130 000 euros. Et ça, on demande qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Mais peut-être ils seront distribués, vous savez, parmi les spécialistes. Il y a des embaumeurs, il y a des consultants, il y a des secrets à acheter aussi à l'étranger. Et puis il y a des gens qui veulent vivre un peu mieux, surtout sous les sanctions actuelles à cause de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. je ne sais pas si vous êtes au courant de ces sanctions terribles, mais d'ailleurs utile à mon avis et tout à fait nécessaire. Donc 130 000 euros pour réparer Lénine. Et alors j'ai proposé tout simplement de vendre un mausolée aux Américains. Non seulement la tête, mais
tout le corps,
toute la chose. L'installer quelque part à Las Vegas et garder le contenu. Et en ce moment-là, ce serait un projet tout à fait humanitaire aussi. Je comprends les gens qui souffrent à cause de ces problèmes-là. Sérieusement, puisqu'ils croient à ça, et peut-être il faut ménager leurs sentiments aussi. Ainsi, si le mausolée se trouve à Las Vegas avec le contenu, les Russes peuvent y aller pour faire... Comment ? Ah, vous savez, on n'a plus besoin de visa pour aller aux États-Unis, hein, pour une période de 1 an et demi. Mais finalement, le mausolée se trouve toujours à Moscou. Et cette proposition a provoqué un tollé sur le Facebook. Et finalement, l'un de mes copains a dit, écoute, on n'y blague pas avec ça. Hein. Tu sais, il y a des gens, des fanatiques qui peuvent te trouver à Paris, attention. Hein?
Ou à Morges.
Ou à Morges.
Pourquoi pas à Morges?
Personne. Non, non, je n'y vois que personne sympathique.
Mais c'est vrai qu'il y a une part de transgression absolument incroyable dans ce texte. On l'a compris, c'est un texte qui tire du côté de la farce et qui bascule dans l'absurde même, cette histoire de vol de la tête de Lénine. Mais en même temps, il y a aussi un côté très, très réaliste. Lorsque vous décrivez, mais ça c'est impressionnant, les processions pratiquement religieuses à l'intérieur du mausolée, ça c'est bien réel.
Et ça continue d'ailleurs. Mais maintenant, le but de cette procession, pardon, est différente. C'est le tombeau de Staline, près du mur du Kremlin, qui attire beaucoup plus d'attention. Finalement, Lénine, il est compromis en quelque sorte. Il a créé un État qui n'a pas tenu plus que 100 ans, ou 70 ans même. Quant à Staline, il reste une sorte de personnage mystérieux qui a gagné la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les gens pensent à Staline et surtout, c'est bien soutenu par le propaganda poutinien, puisque Poutine, vous savez, son rôle est très difficile. Après le shoot et la fin de l'idéologie communiste, il faut recomposer, il faut donner aux gens quelque chose, une idée, une croyance, une foi. Et alors on le fabrique maintenant avec tous les moyens. D'abord, le président qui est presque un héros national, qui sait tout, mais qui s'est volé, qui rattrape les oiseaux dans le ciel. Récemment, elle a rattrapé un poisson dans la mer et elle est sortie avec un brochet. Je ne sais pas si vous suivez les événements politiques en Russie. C'est vraiment étonnant et fantastique. Donc, c'est un héros vraiment populaire. En plus, il s'est parlé avec les Occidentaux et de telle façon que les Occidentaux ferment la bouche. Hein, puisqu'il dit, vous savez, nous avons encore quelques bombes atomiques soviétiques. Hein. Je ne sais pas s'ils peuvent s'exploser, puisque, vous savez, la rouille est toujours là. Mais quelquefois, c'est très, pour les Occidentaux, c'est très sympathique d'avoir peur. On a peur de Poutine, on n'y peut plus répondre à lui, sauf Macron d'ailleurs. Sauf Macron, la dernière fois, Macron a parlé très bien avec Poutine. Donc, plus Staline, alors un héros national, plus Staline qui a gagné la guerre, et puis plus certaines réalités soviétiques. On a réinstallé les jeunes pionnières. Maintenant, il y a des jeunes pionnières qui portent des cravates, même pas des cravates, mais des cravates rouges. Bon, il y a d'autres choses. Les plats qu'on aimait à l'époque. On refait le réalisme socialiste. Tout récemment, j'ai vu une film, j'étais frappé, une histoire des femmes qui travaillent dans une ville comme comme tisserand, on peut le dire, sur oui. des machines, oui, mais sur oui, des machines. Et il s'agit des années 50-60, et la vie est tout à fait acceptable. Les années 60-50, il n'y a pas vraiment du pouvoir soviétique dans ces films-là. S'il y en a un tout petit peu, ce sont des gens gentils, sympas, et tout le monde a des appartements maintenant. Tout. Voilà.
Mais pour renverser les statues et pour voler la tête de Lénine, comme vous le faites dans ce livre, dans cette farce, il fallait quand même inventer un personnage. Et il se trouve que ce personnage, c'est un marginal quand même. Là, c'est parce que j'essaye de revenir à notre. Il fallait un personnage qui soit à la marge pour pouvoir s'attaquer et montrer les abus et l'absurdité totale de ce pouvoir.
Donc vous voyez, c'est quand même utile parfois, un type qui boit et qui
vole. Exactement, c'est utile. Il a une utilité, en l'occurrence, dans l'économie du texte.
Et puis alors, dans l'esprit, nous aimons quand même un peu les voleurs, non ? Un tout petit peu, qu'ils sont sympas, mais des voleurs gentils, des voleurs qui... ou des braqueurs qui n'y tuent pas aussi, ça c'est mieux que... puisqu'ils transgressent quelque chose. Et finalement, qu'est-ce qu'ils transgressent? Ils transgressent surtout notre ennui, puisque nous nous ennuyons, ça arrive. Et d'un coup, il y a un type qui arrive, qui fait quelque chose, et ça crée un événement, on se porte mieux. Et voilà, Catherine, c'est ça qu'il nous faut peut-être. Un type qui a volé la tête de Lénine.
C'est un voleur sympathique, hein?
Oui, jusqu'à certaines limites. Jusqu'à
une certaine limite, voilà.
Dès qu'il est ivre, il est dégueulasse, à vrai dire.
Alors, il y a la question aussi du rêve, parce que, par exemple, dans votre livre, très vite, Pascal Kramer, on se demande, mais au fond, est-ce que ce rêve de vie communautaire, laïque, de partage, etc., est-ce que c'est une utopie? Est-ce que comment est-ce qu'on peut aborder ces désirs, ces projets de vie différente pour des gens marginalisés, alors là vraiment assez durement, est-ce que c'est utopique d'imaginer qu'on puisse inventer ensemble un lieu de vie comme celui-ci?
Non, je pense pas. Je pense qu'il faut juste pas se raconter d'histoire. Et effectivement, Condon. Alors c'est vrai que quand la première fois que je suis allée à Condon, c'était après l'âge d'or, cette fameuse période qui m'aurait pas plu d'ailleurs. Ça faisait quand même un peu Club Med. Enfin, il y avait des grandes, des espèces, ils organisaient des braderies, des grands barbecues. Enfin bon, il y avait un côté comme ça un peu festif qui, moi, je préfère la période actuelle. Et c'est vrai que tous ceux qui ont vécu cette période-là sont dans le regret de cet âge d'or du Carmel. Et moi, je me disais, mais en fait, dans tout projet, il faudrait pouvoir faire l'économie de l'âge d'or ou de la période utopique, parce que qu'on va finir par regretter éternellement, alors que la réalité aujourd'hui, d'ailleurs, les nouveaux qui arrivent trouvent que c'est génial. C'est quand même, pour des gens qui sont vraiment très, très, très marginalisés, qui ont le choix entre la rue, la prison ou des foyers d'urgence ou même des maisons relais où ils sont à 3-4 dans une maison avec, on les laisse là et ça, c'est vraiment une réponse. On dit, bon, la société leur dit, bon, on vous donne un toit, on vous met là, vous nous demandez plus rien, on vous demande rien. Et c'est plus rien, quoi. Donc pour des gens qui ont ces choix-là, de se retrouver dans ce lieu qui est magnifique, avec des retraités, il y a notamment une femme, Huguette, qui a fait le tour du monde, qui a été prof de yoga, qui a connu des gens formidables. Même rien quand elle est là à table, elle est toute droite, elle est toute charmante, elle parle pas beaucoup, mais ça donne, les gens se tirent vers le haut et pas vers le bas. Et donc ça, je pense que... Et puis, le fait qu'il y ait des pèlerins qui passent, quand il y a des enfants aussi qui sont... dès qu'il y a des enfants parmi les... C'est la joie, quoi. Et donc je pense que... Voilà, le problème, c'est qu'il y a eu cette période euphorique, on claquait de l'argent. D'ailleurs, tout le monde me racontait à un moment donné. Et à la fin de l'année, Olivier Lafond faisait un chèque de 100-200 000 euros pour combler les dettes. Bon, il y a un moment où c'était plus possible. Donc effectivement, je pense que c'est réel, mais je pense qu'il faut. Olivier Lafond a créé ce lieu et son premier directeur sans connaître du tout le monde de la précarité, ce que ça veut dire. Et donc, ils y sont allés avec plein de bonnes intentions, mais vraiment une méconnaissance absolue. Ils n'ont absolument pas anticipé les problèmes de cohabitation, d'alcool, les problèmes avec la région. Donc, je pense que c'est pour ça. Voilà, et c'est bien que ça ait eu lieu, parce que ça lance un truc. Et je pense que c'est bien. En plus, ce que je trouvais très bien dans ce projet-là, c'est que c'est vraiment un projet privé. Et je me dis, ben voilà, ça peut donner des idées à d'autres gens. Donc je trouve que c'est bien que les. Enfin, moi, je suis d'avis que chacun doit faire son petit bout. Enfin, qu'il faut tous s'y mettre. On ne peut pas toujours attendre que l'État résolve les problèmes. Donc je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui créent des choses comme ça. Il y en a d'ailleurs qui sont maintenant en cours de. Mais donc, effectivement, il faut un peu rêver. Et être lucide en même temps. Il faut savoir à quoi ça. Et puis se dire que ça ne va pas être facile, parce que si on se dit que ça va être que facile, on va être déçu. Ouais.
Mais ça fait penser à Emmaüs, cette expérimentation.
Absolument. Alors, oui, c'est vrai que ça y
mais
fait penser.
Quelle est la différence ?
Alors, c'est quand même très différent. Emmaüs, c'est vraiment des grandes communautés. Où il n'y a que des gens en précarité, effectivement, on leur donne du travail. Ils ont d'ailleurs créé un statut qui s'appelle le statut de compagnon. Donc, c'est des gens qui ne reçoivent pas le RSA, qui est ce revenu minimum en France. Ils ont 50 euros, je crois, par semaine. Ils sont nourris, logés, ils travaillent, ils doivent, je ne sais pas quel est le nombre d'heures, je crois une vingtaine d'heures à la communauté. Donc, c'est quelque chose qui a été légalisé comme contrat. Donc, d'autres, les compagnons... D'ailleurs, au Carmel, il y a des compagnons. Mais alors, après... C'est uniquement des gens en précarité, et donc pour que ça marche, c'est une discipline militaire. C'est vraiment, c'est très strict. Et nous, moi, il y avait quelqu'un qui était dans le foyer où j'ai vécu à Paris, qui est ensuite allé chez Emmaüs à Rennes, qui était un gueulard et un mauvais coucheur, pas possible. Et il a tenu un mois, il s'est fait virer, et donc il est à la rue à Rennes, de ce que je sais. Donc ils sont obligés d'être très stricts parce que c'est des communautés parfois très grandes. Et justement, c'est pour ça que moi j'aime bien l'idée du Carmel. C'est cette idée que c'est pas à la schlag, mais c'est en mélangeant les genres et tout ça se tient ensemble. Mais alors, il faut un bon équilibre. Il faut un bon équilibre. Et là, pour l'instant, en ce moment, l'équilibre il est un peu rompu.
Moi, je trouve aussi que vos deux textes, et le roman de Jean-Luc Seigle aussi, d'ailleurs, pose cette même question qui est intéressante, là, qui nous éloigne un tout petit peu des textes en tant que tels. C'est la façon dont le monde de la rue, effectivement, les marginalités, on sait que malheureusement, il y en a de plus en plus des gens dans la rue, et on le voit tous les jours. Et c'est la façon dont la littérature, dont les textes littéraires peuvent prendre en charge ces réalités-là. La façon dont faire rentrer ces personnages dans un texte, c'est leur... En lisant le texte, on se dit, mais ils ont un statut, là, ils existent à travers le livre. Tout d'un coup... Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'hommage, mais enfin, c'est une manière de leur donner une place, malgré tout.
Oui, moi, ça, j'y tenais... Alors, moi, je tenais beaucoup aussi à ce qu'ils se sentent bien. Est-ce que je suis trop... Richard est le premier, quand j'ai envoyé le manuscrit fini, je l'ai envoyé au Carmel pour qu'il puisse le lire. Je leur avais d'abord fait lire, quand j'ai retranscrit leur témoignage, je leur ai fait relire pour qu'ils puissent me dire ça, j'ai plus envie de le dire, ça, etc. D'ailleurs, ils ont tout gardé. Ils assument très bien ce qu'ils disent, même les critiques. Et puis ensuite, quand j'ai choisi les passages, j'ai pas tout pris et que j'ai fait des petits portraits d'eux, je leur ai envoyé aussi pour qu'ils valident. Donc je voulais être sûre qu'ils soient contents. Et je sais que Richard, qui est quelqu'un qui n'a jamais lu de sa vie, c'est le premier qui s'est jeté sur le manuscrit. Et je sais que tout le monde s'est senti bien. Et ça, j'étais vraiment content et contente de surtout que ce soit leur vraie parole, parce que c'est vrai que ça, c'est la difficulté quand on s'en empare dans la littérature, c'est que il faut soit vraiment très très bien connaître de l'intérieur ou donner la vraie parole, parce qu'on peut vite tomber dans la caricature, voilà. Et c'est vraiment et puis surtout ce qui est frappant, moi maintenant j'en ai connu beaucoup de ces gens, il y a toutes les personnalité du type vraiment bas du plafond comme celui dont je viens de parler, à des gens, des cuisiniers. Il y a beaucoup de cuisiniers, de militaires d'ailleurs. On s'est souvent dit que si on avait des enfants, il ne faudrait pas les porter vers ces professions. Mais il y a des cuisiniers extraordinaires, il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui... Enfin, il y a toutes sortes de gens. Et donc, on ne peut pas dire les gens de là... Enfin, c'est des réalités économiques, mais ça recouvre des réalités personnelles très, 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 très différentes.
Nicole Abokoff, sur cette question de comment la littérature peut prendre en charge et restituer les marginalités, les gens qui sont à un moment de leur vie.
Une question très grave.
Ben oui.
Ça nous renvoie vers la pratique du réalisme critique, n'est-ce pas, Zola et les autres. Et bien sûr, mais il faut aussi un éditeur qui est assez brave pour publier des textes pareils. Il faut aussi un média qui supporte des textes, qui supporte des textes qui apportent cette compassion pour les gens de la rue. Il faut aussi que l'esprit des lecteurs soit en quelque sorte préparé ou au moins disposé à ce genre de textes. Et ça, peut-être, il y a une sorte de conflit psychique qui existe dans la société, puisque finalement, nous aimons une vie confortable. Donc, si on a tout, pourquoi aller chercher les problèmes d'autrui si nous n'en avons pas les nôtres? Alors, c'est ça le problème. Et comment faire cela? C'est vraiment un problème de société. À mon avis, il faut que peut-être on crée un pôle, deux pôles, trois pôles médiatiques qui seraient un peu plus braves, qui s'éloignent un peu plus de cette pensée qu'on appelle politiquement correcte, n'est-ce pas? Mais il faut le dire, c'est tout simplement la lâcheté humaine, n'est-ce pas? On a son salaire, on a son journal, on publie des trucs qu'on achète, et pourquoi risquer en heurtant un collègue, en heurtant une institution, en heurtant les idées qui sont acceptées? Non, vous...
Mais c'est peut-être aussi la question de trouver le ton juste et la manière juste de restituer ces réalités, parce qu'elles sont complexes quand même. Ça n'est pas simple d'en parler, sauf à simplifier les choses, justement.
Oui, je suis d'accord, mais comment faire? Si nous aimons la vie confortable, nous y restons. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs que peut-être la société moderne va vers une sorte de crise, ce que faisaient dans le passé les guerres, la deuxième guerre, première guerre, des événements qui carrément bouleversaient les sociétés. Mais soyons plus braves, et peut-être les écrivains peuvent écrire d'une façon plus courageuse, plus audacieuse. Je ne sais pas, Pascal, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on trouve une façon correcte, comme vous dites, nous restons dans les choses qui n'heurtent pas personne. Ça, ce sera glissant, ça va tourner.
Mais je pense que c'est difficile. Alors bon, ça c'est très personnel, mais il vaudrait mieux pas avoir trop une arrière-pensée politique, vouloir faire une démonstration avec la méchante société et les pauvres, parce que c'est vraiment beaucoup plus difficile que ça. Et du coup, pour avoir vraiment vécu de près avec des gens dans ces situations, ça nous éprouve énormément. Par exemple, des gens, il y a un pourcentage énorme de gens qui ont des gros problèmes psychiatriques ou d'addiction vraiment lourde à la rue. C'est estimé à 30% de gens qui sont des malades psychiatriques qui sont plus maintenant qu'on met plus dans les institutions, et donc qui se retrouvent à la rue. Voilà, on est face. Moi, j'ai été face sur la durée à des gens qui avancent, qui reculent, qui se détruisent. Et donc, il faut. Moi, je suis très pour la liberté personnelle, de se dire bon, c'est aussi une liberté de se détruire. Après, c'est très éprouvant. Et puis, nous, on est dans nos logiques de il faut construire petit à petit. On a quand même une vision de l'avenir. On a un but vers lequel on veut aller. Et là, on est face à des gens qui sont vraiment des funambules, qui n'ont pas cette démarche-là. Et donc, il faut arriver aussi à sortir de ces schémas pour essayer d'accepter aussi. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé à raconter que j'étais dans ce foyer à Paris, tout le monde, la question tout de suite, c'est et alors, est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir? Comme si c'était vraiment l'obligation. Or, non. On peut dire que, voilà, moi, je repensais à ceux qui étaient là dans le foyer. On était une quarantaine quand j'y suis arrivée. Il y en a plusieurs qui sont retournés à la rue. Il y en a deux qui sont en asile psychiatrique, qui ont été internés de force. Il y en a plusieurs qui sont morts de leur alcoolisme.
Enfin voilà, c'est ça la réalité. Et il y en a un que j'ai vu l'autre jour qui a épousé quelqu'un qui a une petite fille, mais qui se définit comme alcoolique et drogué. Et c'est un gars charmant et sa compagne est bien. J'espère que cette petite va. Enfin, mais c'est des situations compliquées. Et donc, il faut oublier aussi de se dire que tout le monde arrive à fonctionner dans notre. Et moi, j'ai vraiment découvert une chose, c'est qu'il faut des armes pour vivre, des armes personnelles pour vivre cette vie. Et j'ai découvert que moi, je suis assez bien dotée de capacités à affronter l'échec, la frustration. Voilà, moi, il y en a plusieurs qui avaient trouvé des boulots, qui ont des compétences, mais qui n'arrivent pas à assumer le moindre contrariété. Donc voilà, il faut vraiment... Et il y a des gens qui fonctionnent autrement, mais qui ont d'autres compétences, parce que moi, je ne survivrai pas 5 minutes à la rue. J'avais une voisine de chambre qui a vécu 20 ans à la rue, qui y est retournée. Je ne sais pas comment elle fait pour survivre. D'ailleurs, l'espérance de vie à la rue, c'est 40 ans, hein, c'est très, très...
44.
Ouais, voilà.
Ah oui, c'est 44, précis. Ouais.
Non, mais c'est terrible, parce que les gens meurent tôt, quoi. Et les femmes, encore, c'est encore plus bas. Hein. Et d'ailleurs, il y en a moins, mais il y en a beaucoup qui... Et puis après, cette réalité de la rue, c'est d'une violence insensée. Il y a de la prostitution. Enfin, moi, j'avais une voix, celle qui est retournée à la rue. Je sais qu'elle fait des fellations pour une cigarette. Voilà, c'est ça la réaction. Donc, c'est terrible. Donc, si on veut montrer ça, il faut aussi... en face, avoir un public qui est prêt à avoir l'empathie pour comprendre que voilà, on n'est pas tous pareils, que il y a des choses dures et qu'il faut pas forcément dire. Donc c'est très difficile en fait d'en parler. Et puis si c'est juste pour dire on est une méchante société, je suis pas sûre que ça fasse avancer les choses parce que ça pose pas la vérité du problème. Donc c'est très difficile en fait, je crois, d'en parler.
Nicolas, vous...
Et voilà déjà votre livre qui existe, qui annonce, qui présente le problème. C'est déjà très bien, il faut le faire promouvoir pour que les gens sachent et lisent.
Il y a peut-être la question aussi de la forme littéraire que ça peut prendre, parce qu'il se trouve que ni l'un ni l'autre, vous n'avez écrit de roman au sens classique du terme. Hein. Là, clairement, c'est un document. Et chez vous, Nicolas Bokov, c'est une farce. Je me suis demandé, par exemple, sur Pascal Kramer, si cette histoire-là, elle aurait pu prendre la forme d'un roman. Si l'histoire que vous racontez aurait pu prendre la forme d'un roman, ou bien s'il fallait des formes littéraires qui soient justement des formes littéraires un peu, non pas aux marges, parce que le roman n'est quand même pas le centre de tout, mais on a tendance à considérer que le roman est au centre de tout quand même. Donc je trouve que la question des formes aussi, elle est intéressante pour aborder ces sujets-là.
Moi, j'avais été invitée à la librairie francophone, là, et Kérad me disait, mais pourquoi est-ce que vous n'en avez pas fait un roman ? Moi, clairement, d'abord, ça n'est pas un sujet de roman, des romans que je fais moi. Cette histoire de ce lieu, donc c'est sûr que je n'aurais jamais eu l'idée ni l'envie de faire un roman autour de ce lieu. Et puis, je trouvais justement important, pourquoi est-ce qu'on prendrait le recul et on fictionnariserait une réalité qui est là, et moi je trouvais vraiment important de donner la parole aux gens. Parce qu'on ne la leur donne pas assez, et puis surtout sans leur demander forcément de raconter leur parcours à eux, mais de raconter comment ils voient, comment ils analysent eux ce qu'on fait, ce qu'on leur propose. Et ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant de les entendre.
Vous savez, à mon avis, il y a une chose très positive et précieuse dans une prose documentaire, c'est-à-dire le matériel de fait, il présente une énorme résistance à être présenté sur le papier, c'est-à-dire être transformé dans un texte lisible. Ça, cette résistance est énorme. Essayer d'écrire un texte qui soit intéressant et qui soit brillant, n'est-ce pas ? Qui n'entre pas dans la fantaisie, dans la fantaisie carrément littéraire, c'est vraiment un exploit qui n'a pas de prix. Alors, faire un roman, à mon avis, ce serait diminuer le sujet, diminuer le matériel, le jeter par terre, puisque, vous savez, quand on écrit un roman, dès qu'il y a une difficulté présentée par le matériel, on invente. Vous savez, quand le personnage n'a rien à faire dans une pièce moderne, c'est le téléphone qui sonne dans sa poche et ça y est, c'est parti. Mais dans la réalité, il n'y a pas de téléphone. Il y a un alcoolique qui est difficile à écouter, qui est difficile à présenter pour qu'on soit lisible. Finalement, nous avons une tendance de résumer une chose négative en deux, trois mots. Voilà un type qui est par terre, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va raconter de lui? Alors, comment raconter ce type qui est par terre pour qu'on a non seulement envie de le regarder, de lire le texte, mais de s'approcher de ce type, pour le regarder attentivement? À mon avis, c'est vraiment une chose très précieuse et qu'il faut le garder, le matériel tel quel.
Je m'occupe d'un festival de films documentaires autour des droits de l'enfant à Paris. Et récemment, on nous a proposé un film, mais une fiction faite par une association sur des thématiques d'enfance. Donc, mais c'est où c'est joué, c'est très inspiré de choses réelles. Et moi, j'avais un gros malaise parce que justement, on était de toute façon sur du documentaire. Et puis, d'un coup, j'ai compris pourquoi. Je me disais, quand on présente des choses très dures, qui dérangent énormément, quand c'est un documentaire, ben voilà, on peut pas nier que c'est la réalité des gens qu'on voit, qu'on nous dit. Dès que c'est une fiction, on peut nous dire « Ouais, mais vous exagérez, ça n'existe pas. » Et je crois qu'il y a certaines choses, c'est le vrai document, aller vers les vrais... Je pense que c'est vraiment... Oui, je pense que c'est incontournable. Enfin, c'est pas, ça se complète, ces deux genres. On ne peut pas remplacer l'un par l'autre comme on veut.
Ici, un écrivain a écrit un livre sur la rue documentaire que tout le monde arrache et ça devient un livre acheté par des millions. Ça, ce serait quelque chose.
Mais c'est vous qui allez l'écrire, ce livre-là.
Wow. Nicolas Bocoff oui. Est l'auteur d'un livre qui s'appelle Dans les rues à Paris.
Exactement.
Et il a vécu la rue.
Absolument, mais j'allais y venir. C'était la prochaine question. Non, vous avez raison de... Et le livre s'intitule « Dans la rue à Paris » et c'est publié chez Noir sur Blanc. Et c'est effectivement voilà, la restitution d'une expérience que vous avez vécue.
Oui, mais la motivation était très différente. J'ai rencontré dans la rue les gens qui sont devenus les héros de Pascal Kramer, c'est-à-dire les gens qui ont vécu des catastrophes et ils étaient fauchés par... Bon, les hommes, c'était très souvent, c'était les hommes divorcés qui ont perdu... La femme les a quittés et alors c'était fini. Ils n'avaient plus de raisons d'agir socialement, normalement. Aller avoir le boulot, gagner de l'argent et nourrir la famille, c'était fini. Et bon, à quoi sert? Alors l'homme tombe, il est dans la rue, il boit et voilà, c'est fini. Donc ce sont les produits de catastrophe. Non, mon cas était très différent, c'est-à-dire ma motivation était plutôt, si vous voulez, ascétique, puisque cette façon de s'approcher des choses graves, je peux même dire un mot vraiment colossal, approcher de Dieu, voilà, si ça passe, c'est très bien, si ça casse, tant pis. Puisque, vous savez, c'est conseillé. Il y a un livre très intéressant qui existe en français, en grande partie, qui s'appelle « L'échelle ». Et son auteur est Jean Climac, auteur du VIe siècle. Le moine qui a fait une sorte d'encyclopédie de la 16. On peut faire tout. On peut s'occuper des malades, on peut ne pas manger, on n'y boit plus, on n'y dort plus, etc., toute la panoplie des restrictions que l'homme s'impose à soi-même pour s'approcher des choses divines. Et l'idée est simple, dès que l'homme n'a rien du tout, il n'a pas d'amis, il n'a personne, rien à manger, finalement, à ce moment-là, c'est Dieu qui voit ce pauvre type, il dit non, il faut lui quand même, il faut lui aider un tout petit peu, et alors c'est un corbeau qui apporte un sandwich, comme vous savez, n'est-ce pas ? Dans le cas de Saint-Benoît, ou un morceau de pain. tout simplement. Donc, c'était ça. Je voulais voir si la rue, si cette absence de tout, est-ce que ça provoque cette situation où le Très-Haut fait attention à moi. Donc, vous voyez, la motivation est différente.
Oh, bien sûr, on veut savoir quelle est la réponse.
Je ne sais plus, est-ce qu'il y a quand même quelques passages dans le livre qui font penser, mais à vrai dire, fondamentalement, non. Il y en avait des signes d'aide. Voilà, ça c'était, je ne sais pas, des questions tout simples. Je me pose une question, je deviens trop sale, comment faire pour aller à la laverie? Je n'ai pas de sous. Et alors, en ce moment-là, un type s'approche de moi, il dit, je vais te donner 10 francs, ça te convient? Et alors, c'est un geste, n'est-ce pas? Ou encore, je voulais aller voir un prêtre qui était malade, vraiment, il devait le transporter quelque part, et j'ai voulu prendre le métro. Et je n'avais pas de sous pour le métro. Bien sûr, on peut aller en reskieur, n'est-ce pas? Mais c'est pas intéressant. On agit dans le schéma humain. On n'a pas de sous, on prend le train quand même. Non, je n'y voulais pas. J'ai descendu dans le métro en pensant que le problème sera réglé. Et il y a un type avec une bouteille, un clochard, qui boit. Il m'appelle, je m'approche, il me donne la bouteille, il dit « bois ». Et alors, je n'y buvais pas du tout à l'époque. Et je me dis « tiens, qu'est-ce que je veux ?» Il me faut autre chose. Je bois quand même en pensant que je suis dans cette séquence d'événements qui vont aboutir. Alors, je prie en gorgée et avec une autre main, il sort un ticket de métro et il dit « Tiens !» Alors, c'était quand même un geste qui donne un frisson dans le dos puisque tu attends la solution, tu penses que ce sera Dieu et d'un coup, la solution est là. Voilà.
Quand on dit que la réalité dépasse la fiction, voilà. Bon, on peut peut-être élargir un peu la conversation. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser à Pascal Kramer ou à Nicolas Bokov, auquel cas elles sont les bienvenues? Oui, monsieur.
On est évidemment ici tous abreuvés d'informations sur la Russie de Poutine. Personnellement, je ne suis jamais allé ni en Union soviétique ni en Russie. Mais dans ce que je crois qui domine dans le discours sur votre pays d'origine, il y a l'humiliation à la suite de la chute du mur de Berlin. La récomposition difficile, ces images que tout le monde connaît, où on voit Eltsine qui est passablement bourré, qui se fait taper dans le dos par Clinton, je pense que vous connaissez ces images également. Et ce que je me suis tout le temps demandé, c'est dans quelle mesure il y a récupération de cette humiliation par le régime actuel. Est-ce que le citoyen lambda à Moscou ou ailleurs, est-ce qu'il se sent réellement humilié par ces trahisons à répétition de l'Occident qui sont aussi par rapport à d'autres situations, d'autres États? Est-ce que c'est une humiliation qui est récupérée pour fabriquer une adhésion au régime actuel? Ou bien est-ce que le citoyen lambda, ben voilà, il est peut-être ailleurs, il a peut-être une autre idée de ce qui est important dans sa vie? C'est un petit peu ça ma question, je ne sais pas si elle est claire ou confuse. Oui,
le problème de l'humiliation, vous savez, je ne pense pas que c'était le début avec le mur de Berlin, puisque finalement le mur de Berlin, c'est un mur qui s'est trouvé dans un état étranger. Et finalement, la Russie était l'occupant de l'Allemagne. Donc, dès que c'était terminé, c'était terminé. Et en ce moment-là, il n'y a pas d'humiliation. Tout le monde attendait la fin du régime soviétique. C'était vraiment... C'était une espérance générale de tout le monde. C'est-à-dire la population, peut-être les chefs du Parti communiste n'attendaient pas à ça, mais ils prévoyaient ça, puisqu'ils allaient placer leurs capitaux à l'étranger, Alors l'idée était déjà là, quoi, que ça va aller finir. Et le KGB aussi l'attendait, la police secrète, il attendait la fin du régime. Et c'était déjà un projet dans l'air depuis Andropov, que l'idéologie n'y marche plus, c'est fini, alors il faut quelque chose de réel, on va revenir vers le réalisme. Donc il faut éliminer le Parti communiste. Et tout le monde, le KGB, la population, l'étranger, ont éliminé le Parti communiste, c'était fini. Et c'était Yeltsin qui l'a fait, quand il a suspendu l'action, l'activité du Parti communiste. Donc c'était fait. Et il n'y avait pas d'humiliation à ce moment-là, rien du tout. Mais un peu plus tard, vous savez, il y avait déjà autre chose. Les gens attendaient que nous allions avoir une société, peut-être pas tout de suite, mais une société démocratique avec une partance, avec le partage un peu plus juste, etc. Et on n'était pas prêt pour une chose qui s'est produite. C'est-à-dire, les gens qui étaient au pouvoir à l'époque soviétique se sont organisés pour y rester et pour s'approprier des biens de la nation. Voilà, c'était le contenu de cet événement qui a commencé il y a 20 ans, et nous sommes maintenant dans une situation paradoxale, pas du tout vivable, que les biens de la nation appartiennent à quelques petits groupes. C'est une, comment on dit en français, junte, vous savez, un groupe de militaires, et surtout du KGB.
Une junte,
voilà, oui. Absolument. Qui contrôle le pouvoir, qui a dit à tout le monde, il a dit à oligarche, par exemple, en personne de Khodorkovsky, que non, il y a seulement un mouvement d'un KGBiste vers le bien, vers les millions, mais pas dans le sens inverse. Khodorkovsky, qui n'était pas un magnate, qui était un oligarche, comme on dit, millionnaire, il voulait participer au pouvoir. Non, il a eu ses 10 ans de prison pour dire à tout le monde que non, c'est le KGB qui tient le pouvoir dans notre pays, en Russie actuelle. Donc, voilà. Et maintenant, bien sûr, la télévision russe pro-poutinienne, elle pompe cette idée qu'on est humilié, que l'Occident qui veut nous faire du mal. Vous savez, nous sommes entourés des ennemis.
Vous avez une autre question, madame? Oui. On va vous passer le micro.
Pour revenir au thème du débat, la question de la marge, je ne sais pas si ça marche, oui, c'est bon. Le thème de la marginalité, je voulais dire que vous avez eu, Pascal Kramer, une immersion d'une année et demie, vous avez évoqué, dans une structure de foyer. Et puis après, vous avez fait cette démarche d'enquête en vous impliquant. Je veux juste dire que Nicolas Bokov, parce que quand tu parles, on a l'impression que c'était un intérêt purement spirituel, puis il y a une espèce de curiosité à l'endroit de voilà, ce qui va arriver. Mais tu l'as mené jusqu'au bout, c'est-à-dire que tu as failli en mourir et que ça a duré 7 ans. Ce n'est pas du tout une plaisanterie de 2 semaines pour s'immerger dans le tourisme de la précarité. Non, ça a été un engagement de tout l'être et qui t'a amené jusqu'à des extrémités. Et
vous avez une question à poser?
Oui, non, mais c'était une précision.
Oui, mais je pense qu'on a bien compris, oui, que ce n'était pas une plaisanterie. Bah, hein,
non, c'est pas
un
temps.
La question de la durée, clair, je trouve que c'est très important que la question de la durée, parce que moi je connais l'œuvre de Nicolas Bokov, mais si on n'a pas lu...
Je pense que quand il s'est exprimé, on a bien compris que c'était...
Oui. Moi, je veux juste dire que ce n'est pas...
Non, je ne voulais pas opposer... Je ne voulais pas opposer mon expérience à celle de Pascal. Finalement, c'était motivé autrement. Mais cette démarche-là de Pascal, je l'accepte.
Ouais, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout du tourisme, parce que d'abord, j'y ai passé 1 an et demi et je suis toujours en... Non, parce que c'est un véritable... Quand on commence à côtoyer ces gens, quand on a fait l'effort, quand on a vécu, Voilà, c'est que je ne peux plus jamais les sortir. Et d'ailleurs, je suis là actuellement en difficulté avec une des filles avec qui j'ai des liens en France Téléphone tous les jours. Et elle est internée à Sainte-Anne avec une paranoïaque extrêmement grave. Elle est à deux doigts de se retrouver à la rue parce que le foyer l'a virée. Et je sais qu'elle va venir chez moi. Donc on s'implique vraiment. Et c'est vrai que c'est des questions qui se posent après, de se dire... jusqu'où on va tenir, quoi, dans cette fidélité, quand les gens, de voir, on en enterre, enfin, ça va loin, en fait. C'est tout à fait. Non, c'était le terme de tourisme
qui me. Ma précision. Ouais. Non, c'était pour qualifier la démarche. C'est pas du tout par d'accord. Rapport okay. À vous. Hein.
Est-ce qu'il y a une autre question? Mais peut-être, Nicolas Bocquet, vous vouliez rebondir sur cette question-là, non?
Et sur
cette intervention, oui.
Sur
la gravité et la profondeur de cet engagement que Pascal vient de souligner à l'instant.
Mais surtout, bien sûr, la différence des motivations. Puisque si tu veux et tu t'engages à faire quelque chose, c'est très différent par rapport à un homme qui a vécu une catastrophe, n'est-ce pas? Il y a des sportifs maintenant qui pratiquent.
Le micro ne fonctionne plus bien.
Qui pratique.
Peut-être tenez-le comme ça.
Ça marche. Question.
Voilà,
ça,
là c'est bien.
Qui pratique les sports. Ah oui, voilà. Qui pratique les sports extrêmes, vous savez. Et bon, récemment, il y avait un type qui était formidable, qui, vous savez, volait avec une sorte de costume dans l'air. Il s'est tué quelque part dans les Alpes. On dit que, bien sûr, c'est dommage, mais finalement, il a pris ce risque-là. Et voilà, il est mort maintenant, mais bon, c'était dans son programme. Par contre, la personne qui va, je ne sais pas, dans la rue, il est écrasé par une voiture, il n'a rien cherché, ça se passait différemment. Et puis, il est malade, il vit cette expérience, ce déchirement de son contexte vital, de son contexte existentiel. Bien sûr, il va le vivre différemment. Et l'entourage aussi. L'entourage, s'il voit quelqu'un qui est mort par accident ou autrement, qu'il n'a pas voulu, donc la réaction sera différente. Alors, c'est en quelque sorte, c'est incomparable. Et puis, alors, j'ai beaucoup de respect pour cette expérience qui a duré un an et demi quand même. Un an et demi, rester dans ces groupes et rester attentif, n'y pas mépriser ces gens-là, les aimer quelque part, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment entrer dans le problème, dans les situations qui est tout à fait... qui apporte ses fruits, ce livre, et à travers ce livre, l'attitude qui sera propagée dans la société.
Oui, c'est aussi une attitude de partage, hein, pour reprendre le titre, hein, puisque le titre du livre, c'est « Chronique d'un lieu en partage ». Il y a le partage de toute cette communauté, et puis le partage de l'auteur qui vient, non pas poser un regard lointain, mais qui se met dans le...
Et puis justement, comprendre, parce que moi, la raison pour laquelle je suis allée dans ce foyer, bon, ils avaient besoin de monde, donc déjà, j'avais la possibilité de le faire. Et puis je me disais, je vis dans une ville quand je descends chez moi, surtout le soir, enfin, quand tard le soir, c'est fou, quoi. À Paris, les gens, c'est l'équivalent d'une ville moyenne, hein, qu'il y a à la rue à Paris. C'est quand même énorme, quoi. Et donc, on voit ça tous les jours, et puis on est démunis, puis on ne comprend pas. Et c'était aussi une façon d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'apprivoiser. Et puis, évidemment, plus on comprend, plus on voit bien que les problèmes ne sont pas simples et que les solutions ne sont pas du tout évidentes et que ça permet de réfléchir. Et ce projet de condom, moi, ça m'a vraiment plu parce que je me dis, c'est une façon d'essayer de trouver et ce qui est sûr. Alors, la seule conviction que j'ai, c'est qu'il faut arrêter de mettre les gens dans des cases et que c'est en se mélangeant qu'on va quelque part, quoi.
Oui, ce monde de la rue, Nicolas Bocquet, puisque vous le connaissez bien, il constitue une véritable société. Pascal vient de dire à Paris, je ne sais pas ici, et peut-être que les chiffres ne sont pas les mêmes, mais c'est vrai qu'à Paris, ça représente maintenant la population d'une ville moyenne. C'est absolument considérable. C'est tout un monde
qui se... Il faut prendre le micro.
Ah oui, celui-là, il marche.
Ah oui, c'est vrai qu'il marche.
On parle de 10 000 des gens, des SDF et des clochards à Paris. Donc, c'est vrai, c'est une société qui est maintenant complétée par les migrants, des gens qui n'ont pas trouvé de place et qui ont entré dans la rue d'une façon presque volontaire, c'est-à-dire ils agissent plus facilement avec, comme voleurs, excusez-moi, mais bon, comme les délinquants, puisque la vie occidentale offre cette possibilité.
On va peut-être récupérer l'autre micro.
Oui, en fait, il y a plusieurs communautés. Il y a les classiques clodos, et puis il y a effectivement les migrants. Et ça, ça, on le voit dès qu'ils sont dans des foyers. Enfin, c'est des situations conjoncturelles. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils n'ont pas de papier, qu'ils n'ont pas le droit de bosser, qu'ils se trouvent dans ces situations. Dès qu'ils sont régularisés, souvent, ça y est, c'est bon. Ils s'intègrent assez facilement parce que c'est pas forcément des gens qui ont des blessures énormes ou des addictions ou des problèmes psychiatriques. Et puis il y a les sociétés de Rome qui c'est encore différent parce que ce sont des communautés organisées alors que les classiques personnes à la rue, souvent elles sont très seules. Alors après il y a des petits groupes qui se forment, mais il y en a beaucoup qui sont dans une très grande solitude, quoi.
Est-ce qu'il y aurait une... Oui, monsieur, une autre question ?
Des contacts
dans les années 70. Vous aviez un contact avec d'autres marginaux?
C'était déjà les années 80 plutôt. C'était donc je suis descendu dans la rue, je peux vous dire.
C'était en Russie?
Ah non, en Russie, j'étais tout à fait une citoyenne soviétique, j'étais universitaire, j'ai fait mes études. Après, j'étais licencié de l'université pour des raisons politiques et finalement forcé à émigrer. Voilà. Donc, c'était une carrière tout à fait normale.
Vous n'avez pas connu les marginaux de l'époque?
En Russie? Vous savez, en Russie, les marginaux étaient interdits. Donc, il n'y en avait pas. Il y avait des ivrognes classiques qui vivaient dans les gares, puisque les gares ne se fermaient pas. Mais le régime cachait ses défauts. Après la guerre, deuxième guerre, il y en avait beaucoup des invalides à Moscou et dans les villes de la Russie. Et à un certain moment, vers 1948, tous les invalides ont été évacués des forces dans des maisons créées à une certaine distance des capitales.
En fait, quand vous dites que les marginaux n'existaient pas, c'est juste qu'ils étaient cachés, ils existaient.
Ils étaient cachés, oui, bien sûr. Les gens pauvres étaient là. Mais il n'y avait pas... Vous savez, le travail était obligatoire en Russie soviétique, en Union soviétique. Si quelqu'un disait, vous savez, je n'ai pas de travail, alors on faisait un geste et il y aurait du travail tout de suite. Non, la société était organisée de telle façon qu'il n'y a pas des marginaux volontaires ou involontaires. Quoique les gens pauvres, ça existait. Il y avait des gens qui avaient faim, etc. Et on a caché les... Je suis tombé par hasard sur une maison d'invalides en 1971. À côté de Vologda, c'est déjà 300 km de Moscou, il y avait un ancien monastère sur l'île où il y avait des gens qui étaient vraiment mutilés physiquement pendant la guerre, qui n'avaient pas de jambes, une jambe, deux jambes, un bras. Et c'était une société, il y en avait à peu près une centaine, et c'était surréaliste de voir. D'ailleurs, on ne pouvait pas tout simplement y aller. Il a traversé le lac, une partie des lacs. Donc, c'était caché, c'était concentré. Les gens vivaient comme ils pouvaient et ils mouraient sans déranger personne d'une façon esthétique. Personne ne les voyait.
Bien, je vous renvoie à la lecture des livres. Donc, Chronique d'un lieu en partage, c'est aux éditions de l'Atelier pour Pascal Kramer. Et puis La tête de Lénine, et également Dans la rue à Paris pour Nicolas Bokov. Les deux sont publiés aux éditions Noir sur Blanc. Merci beaucoup à vous deux et bonne journée à tout le monde. Merci.